Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute et Armand Dubois, bienvenue à cette émission de la série Destination Bonheur. Pour parvenir à cette destination, notre invité, qui est un grand voyageur, a probablement été un des rares à garder le cap aussi longtemps dans les eaux tumultueuses de l'animation radiophonique dédiée à l'analyse de l'actualité. Un long périple au gré du temps. 46 ans de métier, dont 24 années à la barre de ce gros navire que fut le Journal du Midi et qui a pris fin le 7 août 2008. Un style d'animation suscitant parfois la controverse, mais nourri par une langue exemplaire. Sa manière persistante de se porter justement la défense de la langue française sera soulignée en 1998 par l'attribution de la médaille de la reconnaissance française, remise par le ministre des Affaires étrangères du gouvernement français. De nombreuses autres distinctions marqueront son parcours professionnel, tout comme Wilfrid Laurier, Wilfrid Pelletier, Armand Frappier ou Raymond Lévesque. Il peut s'enorgueillir de cette médaille Bene Merenti de Patria qui lui fut remise par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et qui souligne bien sûr les mérites d'un compatriote ayant rendu des services exceptionnels à la patrie. D'animateur coloré qu'il fut, c'est un portrait pourtant noir sur blanc qu'il peint maintenant sur la piètre qualité de la langue entendue sur les ondes et sur ce qu'est devenue la radio aujourd'hui. Un grand plaisir que d'accueillir aujourd'hui M. Gilles Proulx. Bonjour à vous.
Armand Dubois, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être à votre antenne, un petit poste fort vaillant qui maintient une qualité de radio d'ailleurs.
En consultant votre feuille de route et j'allais dire votre voyage radiophonique, on semble déterminer ou découvrir un fil conducteur, la passion.
Heureusement, parce que c'est ce qui anime une carrière et pour la maintenir le plus longtemps possible, il faut qu'il y ait cette nécessaire passion, c'est cette dynamo qui s'allume et qui, en tout cas, sert à entretenir un auditoire, à être un peu à part de ceux qui l'immobilisent après quelque temps parce qu'ils sont rouillés par, non pas l'inactivité, mais la routine qui est le pire ennemi d'un travail, que ce soit en animation ou ailleurs. Alors oui, la passion est fort importante.
Vous avez quitté officiellement les ondes parce que vous y êtes encore aujourd'hui, heureusement pour nous, avec nous. Mais vous avez quitté un métier que vous avez profondément aimé.
Oui, il n'y a pas de doute et je l'ai encore en moi, même si j'en suis sorti. Et pour moi, c'était un idéal de jeunesse. J'ai été influencé aussi par mon frère Jacques, que vous avez reçu il y a quelques mois ici, puis... Peut-être parce que j'avais une âme un peu plus artistique que de technicien ou je ne sais trop quoi, ou dans une industrie commerciale. Et c'est ce qui va m'attirer. Il y avait le phénomène déjà, voyez-vous, vous parliez dans le préambule avec beaucoup d'insistance de la langue.
Oui.
Je me fais éveiller dans mon jeune âge, ma jeune vingtaine, début de la Révolution tranquille. Je travaille dans des industries où l'anglais est obligatoire, où le français ne doit pas être parlé.
Vous avez évolué à Verdun, dans un monde anglophile, je pourrais
très,
dire.
Très, oui. Majoritairement anglophone à l'époque, oui. Et avec les frictions sociales que ça comportait.
Oui.
Et je me disais, comment travailler en français? Est-ce Dieu possible? Et les ouvertures étaient bien limitées à l'époque. Il y avait quoi? Hydro-Québec, Radio-Canada ou un poste de radio. Et mon frère, qui venait de commencer une carrière, qui avait déjà 2 ans dans le corps, m'a un peu, en quelque sorte, allumé. J'étais allé voir un dénommé José Ledoux, qui était un grand reporter à la station de Verdun, où j'étais élevé.
Oui.
Qui était une grande station à l'époque, très distinctive. Et celui-ci m'a pris sous son aile, et puis il m'a entretenu pendant 2 années avec d'autres comédiens. Il va m'envoyer plus tard chez Henri Norpère pour apprendre à lire, à faire des phrases courtes.
Donc, une carrière qui s'amorce en 1962.
Oui, alors préalablement, est en 60-61, oui. Quand Ledoux m'entreprend, et c'est ça au mois de juillet 62, je pars avec ma petite bagnole, une voiture sport, je fais le tour du Québec, je vais dans la péninsule, le bas du fleuve, je vais sur la côte nord, je m'arrête au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je postule dans chacune des petites stations qu'il y avait là, et puis nerveusement, je bafouille mes auditions, mes lectures, mais malgré tout ça, en rentrant, mes parents t'ont bien découragé. J'avais lâché un bon emploi à la Norton Electric, qui était payant pour l'époque.
Oui.
Et j'ai été sauvé par la cloche, puisque CKBM, Montmagny, m'appelait pour me dire « Nous sommes prêts à vous offrir 35 $ si vous voulez faire vos écoles à Montmagny. » C'est ce que j'ai fait.
On va pouvoir y revenir, M. Proulx. On va d'abord aussi parler musique, parce que vous avez apporté avec vous de belles pièces musicales.
Oui.
On va se rappeler l'époque de vos débuts à la radio. Où étiez-vous en novembre 63, le 22?
J'étais en train de lire un bulletin de nouvelles à 1 h à CKCN Sept-Îles, quand quelqu'un est venu me glisser un autre bulletin spécial pour me dire que John Kennedy, au conditionnel, aurait été atteint d'une balle à Dallas, Texas. Oui, et qui peut oublier ça? Personne. Ça nous a tellement secoués mondialement.
Et cette chanson de France Gall qui rappelle un peu ces tristes événements, une sorte de prière ou d'incantation ou de conseil à l'égard de John John.
J'aime beaucoup France Gall, sa voix pure, son articulation, son charme aussi. Et effectivement, pourquoi pas un hommage à ce John John qui, lui aussi, a mal fini.
Puisque papa est en voyage, tu es le chef. Être sage. Bonsoir, John John. Comme le disait souvent papa, ce n'est plus l'heure de faire la guerre. Il faut ranger tous ces soldats. Bonsoir, John John. Tu es un homme et tu sais.
De retour au gré du temps en compagnie de Gilles Proulx, revenons sur la question de la langue, parce qu'il nous semble que dans tous vos propos, quand vous parlez voyage, quand vous parliez d'actualité, c'était vraiment un cheval de bataille que cette défense de la langue française et de la pureté de la langue.
Comment il se fait? Je ne sais pas pourquoi. Comment expliquer ça? Je suis un simple gars de Verdun qui a eu une éducation bien sommaire et une instruction bien limitée avec les institutions du temps. Je ne sais pas, c'est cette âme en faveur de l'identité, de l'histoire. Et le mouvement de la Révolution tranquille, la naissance du RIN, l'affirmation en faveur du français, toutes ces choses vont m'accrocher. Et en allant à la radio, je veux travailler dans ma langue, je réussis déjà une partie de mon engagement. Et je me dis que ce média-là doit servir aussi à transformer les mentalités. Quelle utopie, quelle illusion, mais quand même. Et je vais mettre à l'enseigne de mon animation le désir de faire répandre une langue admirable et tellement belle quand on sait l'utiliser. Elle ne s'appelle pas une majesté pour rien, mais j'ai bien vu que c'était vain avec le temps. Il en était ainsi aussi pour la sensibilisation à l'égard du passé, de l'histoire, l'environnement. On est toujours à la case zéro.
Et Yves Duteil a bien su traduire la beauté de cette langue par la chanson « La langue de chez nous ».
Oui, il nous fait faire un tour du monde au sein de la francophonie, justement.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies dans cette langue belle couleur de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, viens nous chanter ses peines et ses espoirs.
Quelle belle chanson, n'est-ce pas, Monsieur Proulx?
Très touchante, hein?
Dites-moi, je disais dans le préambule que vous peignez actuellement un portrait noir sur blanc de cette qualité de la langue, et je ne veux pas qu'on s'éternise évidemment uniquement sur cette question, mais quel constat faites-vous quand vous regardez ce qu'est devenu la radio, vous qui avez fréquenté ce milieu pendant 4 décennies?
Un échec, il n'y a pas de doute. Évidemment, le veau d'or, la matérialisation, la course au profit, la facilité avec laquelle on atteint le matérialisme, toutes ces choses ont fait que l'esthétisme pouvait passer par-dessus bord, ou évidemment, le ministère de l'Éducation, qui ne nous a pas plus instruits que l'ancien département de l'instruction publique, mais fort.
C'est sévère, ça.
Très, et ce n'est pas encore assez sévère. Sévère parce que, justement, fort de notre tonus gonflé, on se gonfle aussi des statistiques et des résultats scolaires qui ne sont pas des plus beaux, et on le voit chaque année quand il y a cette liste de palmarès où on voit, évidemment, l'autorité n'existe plus, les professeurs qui peuvent devenir titulaires d'un grand titre de professeur sans passer par l'école normale et avec des fautes dans leur propre test d'adhésion, et ce n'est pas grave. On est dans le règne du « ce n'est pas grave ». Et ça se reflète également à la radio, puisque cette génération est venue s'emparer des commandes. Et moi, j'ai connu la belle époque où j'étais dirigé, toute timide, par des monstres de la radio, mais des gens combien respectables, que ce soit Roger Beaulieu. C'est tout un honneur de dire, j'ai eu comme patron Roger Beaulieu, et lorsqu'il m'appelait après une émission, on peut dire, je veux vous voir, je vous ai entendu dire telle chose, ça se dit pas comme ceci.
Mais vous avez été vous-même directeur de l'information, je pense par exemple à CKLM.
Exact.
En début de carrière.
Oui, oui.
Et pourtant, quand on regarde ce qu'est devenu le personnage aussi, Gilles Proulx, parce qu'il y avait le personnage, Gilles Proulx, bon, un peu coloré, parfois dans l'exagération, évidemment, oui, oui. Manifeste, on se demande qui est le vrai Gilles Proulx? Est-ce que c'est celui qui nous parle avec passion de cette langue, de ce métier, ou est-ce celui qui, dans le fond, a joué toute sa vie un personnage?
C'est-à-dire, le personnage, je vais le jouer parce que la concurrence devient outrancière, la radio se transforme. Oui. Et c'est de là mon succès, c'est cette adaptation d'une décennie à l'autre où je n'ai jamais pu me faire taxer d'homme dépassé. Et même les jeunes...
Donc, une grande capacité d'adaptation.
Exactement. Et 84 arrive, une compétition nouvelle, l'émergence des réseaux qui sont déjà là, mais qui se font acheter par des intérêts financiers, souvent de l'extérieur du Québec, l'américanisation qui entre à pleine porte. Alors, cette adaptation va faire que je vais emprunter un style beaucoup plus théâtral. Je vais y associer à ça la dérision, puis la moquerie, puis des fois l'emporte-pièce.
Est-ce que ça se fait pas au détriment de certaines valeurs auxquelles on croit?
Bien, tout en maintenant quand même, à travers tout ça, il y en a beaucoup qui me l'ont reproché, mais je pense que ces gens-là n'étaient que des bigotes ou des envieux. Tout en maintenant dans ce style très dynamique, théâtral, moqueur, un goût poussé pour la connaissance de vos origines, l'histoire, les noms de rue. Il n'y a pas un animateur qui a fait ça à Montréal pendant des années. La sensibilisation à l'égard de l'environnement et la langue. Encore une fois, l'identité restait. Mais tout cela faisait partie d'un contexte d'amélioration collective pour une nation.
D'ailleurs, c'est votre frère qui le relevait, parce qu'on a parlé évidemment du marché de Québec qu'il a connu, où la radio est bien différente de celle de Montréal. Il évoquait que son frère, donc vous-même, aviez un style très différent lorsque vous faisiez des entrevues de fond avec un invité. Et la première partie de votre émission où, effectivement, le personnage prenait beaucoup plus d'ampleur.
Parce qu'il y avait des éléments à allumer le bâton de dynamite. Oui. Quand on voit une déception chez un politicien, une législation qui ne plaît pas nécessairement un fort courant de la population, je ne sais pas, moi, une grève sauvage qui prive...
Ça vous atteignait vraiment?
Ça m'atteignait parce que je disais, coudon, est-ce qu'on avance ou si on fait du surplace? Et on est encore une nation infantile quand je vois ces policiers habillés en voyous dans les rues de Montréal avec les conditions sociales dont ils bénéficient et également les salaires. Puis des ignares, souvent, montent à cheval, même s'ils ne sont plus des cavaliers. Les pompiers, pareil, avec leurs culottes, puis le Fire Department of Toronto. Tout ça, ça m'atteignait vraiment dans mes vibrations. Je me dis, à quoi bon avoir une mairie ou une administration, un gouvernement, si on laisse tout passer au nom de l'infantilisme? Et puis, c'est ce qui faisait que je mettais du volume et j'étais devenu une espèce de Don Quichotte.
On parlera de votre impact social, mais auparavant, j'aimerais que vous nous présentiez la prochaine pièce, celle d'Enrico Macias.
Ah, que j'aime beaucoup, que je connais presque intimement. Et j'ai été en Algérie à 3 reprises. Ce bonhomme venait d'Algérie, il a quitté en 62 avec ses clics, ses claques. Il est devenu ce qu'il est. Il a été proclamé le chanteur de la paix par l'ONU. Et les millionnaires du dimanche, ça me rappelle mon père avec sa chemise blanche le dimanche, quand on était tout petit dans les années 50, qui nous amenait en villégiature. Et je revois mon père à travers cette chanson.
Dès le matin, le dimanche, on est bien. C'est la trêve. Et les voitures font de la route un train plein de rêves. Si ce jour-là, on fait moins attention aux dépenses, c'est que l'on a avec soi des millions d'espérances. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux. Dans les cafés, les joueurs de tiercé se dépêche. Au bord de l'eau, on s'en va déjeuner et l'on pêche. Si les forêts ne sont que des buissons en kermesse, c'est que l'on fait ce jour-là provision de tendresse. Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font d'une baraque en planche un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux.
Gilles Proulx est avec nous aujourd'hui au gré du temps en se remémorant peut-être ses belles années d'enfance avec la chanson que nous venons d'entendre. Une enfance heureuse?
Oui et non, pas tout à fait heureuse parce que le modèle familial ne se présentait pas à ma vue, mais heureuse parce que j'ai eu la chance d'avoir été placé dans un collège pensionnaire, fort respectable, le collège de Longueuil, d'avoir été inculqué de certaines valeurs, notamment la discipline qui est tellement importante dans une carrière comme la nôtre. Et aussi parce que, comme gamin, je dois dire, même si mes parents n'étaient pas symbole d'unité familiale, nous ont passablement gâtés avec les moyens du bord.
Est-ce que c'est ce qui a fait de vous ce bagarreur que nous avons connu en onde?
Je ne le sais pas. Souvent, je me dis, quand je me réfère au passé de mes parents, je tiens de ma mère qui était une bagarreuse. Il y a toujours des gens qui décrivent selon le signe astrologique. Quel signe es-tu? Je suis bélier. Ah, voilà la réponse. Et je ne suis pas rancunier. Ah, ben voilà la vraie réponse du bélier. Mais est-ce que ça a une certaine relation? En tout cas, j'ai hérité de cette combativité qui venait beaucoup plus de ma mère que de mon père, qui était plus pacifiste et qui prenait plus aisément son trou, je pense. Oui. Face à l'autorité, en tout cas.
Vous parliez tantôt d'Enrico Macias et du Maghreb. Le Maroc a reconnu chez vous vos talents, en quelque sorte. Vous êtes citoyen honoraire du Maroc.
Oui, tout ça est arrivé à TVA. Un dimanche soir, j'étais chez Louise Deschâtelet. Elle me demande, vous avez beaucoup voyagé. Quel est le plus beau pays au monde? Spontanément, j'aurais dit de tout cœur la France pour moi, le Canada, le Québec aussi sont très beaux. Mais j'ai dit, pour photographier? Elle a dit oui. J'ai dit le Maroc. Alors, la diversité culturelle et aussi le paysage qu'il y a dans ce pays est absolument étourdissante. On ne tourne pas les grands films d'antan, justement, parce qu'au Maroc, les paysages aussi, la route des Casbahs, le désert, les Atlas, les villes impériales, les Français, les Espagnols, oui. Les Romains, les Vikings même, voilà un coffret d'histoire. Oui. Évidemment, en disant ça, les autorités marocaines, tout de suite, Royal Air Maroc, l'Office du tourisme du Maroc, la Chambre de commerce canado-marocaine, me téléphonent, et puis il faut que vous veniez à notre gala dimanche, puis on va vous rendre un hommage. Alors, j'ai été très flatté de cela.
Et vous avez bien sûr visité ce pays à quelques reprises.
À 15, je suis encore allé récemment, là, au mois de novembre, et à 15 reprises. Ça faisait le 15e voyage que j'ai fait au Maroc.
On aura l'occasion de parler des voyages. J'aimerais juste ouvrir une fenêtre sur l'importance de la musique dans votre vie.
Ah ben, c'est un environnement qui est agréable pour l'oreille, qui nous fait rêver. C'est une évasion, la musique, surtout quand elle... Pour moi, la musique française est très importante. Quand j'écoute des disques français, je n'en reviens pas de voir avec quel égard... Mes confrères me regardent de haut comme si on devait vomir sur tout ce qui est français ou de la France. Et quand on écoute justement la formulation du verbe, je ne sais pas que ce soit l'intensité, l'humour. Vous reculez dans le temps avec les Maurice Chevalier, Chaltrenet, qui étaient des cabotins très intelligents et toujours joviaux. Les bonnes chansons des années 50 qui étaient toujours... qui transmettait le bonheur, parlait que du bonheur et du plaisir, de l'amour. Et puis, on est rentré dans une phase de lamentation où les chanteurs sont un peu plus râleux. Je trouve que, justement, Enrico Macias, que nous écoutions tout à l'heure, est un être qui transmettait le positivisme.
Alors, il va y avoir ici une note d'apaisement, puisque nous allons faire une incursion dans le monde de la musique dite classique, ou à tout le moins chorale.
On va aller à Vienne?
Exactement, avec une musique d'un auteur qui n'est peut-être pas très connu, Johann Ritter von Herbeck. C'est un musicien autrichien qui est né à Vienne en 1831. Il fut professeur au Conservatoire de Vienne et devint en 1871 le Kapellmeister de l'Opéra impérial, poste qu'il occupa jusqu'en 1875. Une de ses plus belles œuvres, M. Prou, est le Pueri Concinite. C'est une musique pour la chapelle de la cour de Vienne, une œuvre vraiment à découvrir, interprétée ici par le chœur des petits chanteurs de Vienne. Je suis certain que ça va beaucoup vous plaire.
On va l'apprécier.